bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 13 septembre. La Corée du Nord teste un missile de croisière à longue portée. Covid-19, le seuil des 70% de primo-vaccinés devrait être franchi cette semaine. Présidentielle 2022, Lee Jae-myung recueille la majorité au vote civil de la primaire du Minju. Enfin, BTS remporte 3 récompenses aux MTV Video Music Awards. Pyongyang a testé avec succès un nouveau type de missile de croisière à longue portée durant le week-end dernier. D'après l'agence centrale de presse nord-coréenne, KCNA, ce matin, les projectiles ont volé pendant 7580 secondes, soit près de 2 heures, le long d'une trajectoire elliptique et en forme de 8 au-dessus du territoire et des eaux territoriales nord-coréennes pour toucher une cible située à 1500 km de distance. L'agence du pays communiste a vanté que le lancement avait prouvé l'efficacité et l'utilité du système d'armes en satisfaisant toutes les contraintes techniques liées à la propulsion du moteur, à la manœuvre et à la précision du tir. La KCNA a ainsi salué un exploit majeur sur le plan stratégique en soulignant que ce type d'engin constituait un projet clé du Parti des travailleurs et qu'il servirait de moyen de dissuasion efficace visant à garantir la sécurité nationale et à réprimer les manœuvres militaires des forces hostiles. On a appris que ces premiers tirs d'essai depuis mars dernier aurait été effectué par le membre du présidium du Politburo du Parti des Travailleurs Park Chung-chon et ce en l'absence du dirigeant Kim Jong-un. La Corée du Nord a rendu public les photos montrant le tir des projectiles depuis un tracteur érecteur lanceur qui avait été déployé lors d'une parade militaire. Elle aurait opté pour un missile de croisière qui n'enfreint pas les résolutions de l'ONU, contrairement aux missiles balistiques, afin de mener une démonstration de force de faible intensité. Dossier intercoréen, toujours le négociateur nucléaire sud-coréen No Kyu-dok s'est envolé hier pour le Japon pour des discussions bilatérales et trilatérales avec ses homologues américains et japonais. Lors de sa visite de 3 jours à Tokyo, il va rencontrer Song Kim, représentant spécial des États-Unis pour la Corée du Nord, et son partenaire japonais Takehiro Funakoshi, directeur pour les affaires de l'Asie et de l'Océanie au ministère des Affaires étrangères. C'est leur première réunion depuis juin dernier à Séoul. Les 3 émissaires nucléaires examineront ensemble la dernière évolution de la conjoncture dans la péninsule avant de chercher ensemble des moyens de reprendre le dialogue avec le pays communiste. Avant son départ, No Kyu-dok a souligné que Séoul et Washington avaient réalisé des avancées dans les consultations bilatérales sur une éventuelle coopération humanitaire intercoréenne et d'ajouter que ces progrès seront partagés avec Tokyo. Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 s'est élevé à 1433 ces dernières 24 heures, dont 1409 au niveau local. Plus de 78% des infections ont été recensées à Séoul et dans ses environs. Le cluster d'un marché traditionnel de l'arrondissement de Songpa dans la capitale a enregistré 123 cas confirmés. Étant donné que quelques 1300 personnes attendent le résultat de leurs tests, ce nombre pourrait encore grimper. À propos d'une chaîne de contamination survenu dans un bureau du quartier de Dongdaemun, où le premier cas remonte au 5 septembre dernier, 12 individus ont depuis été testés positifs. Jusqu'à présent, 64,5% de la population sud-coréenne ont reçu la première dose du vaccin, soit 33,1 millions de personnes. Le chiffre a progressé de 6 points en une semaine. Pour atteindre 70% avant Chuseok, la fête des moissons qui tombe mardi prochain, 2,8 millions de personnes doivent encore se faire inoculer. Au rythme actuel de 600 000 par jour, l'objectif semble donc atteignable. La proportion de citoyens complètement vaccinés dépassera 70% fin octobre contre 39,1% actuellement. Afin d'accélérer la campagne de vaccination, le gouvernement remanie le système pour que les doses de sérum non utilisées puissent être distribuées sur réservation le jour même. Par ailleurs, à l'occasion des vacances de Chuseok, les dispositifs spéciaux de prévention s'appliqueront à partir d'aujourd'hui pendant 2 semaines. Les visites en face à face sont autorisés dans les établissements de convalescence seulement pour les patients et les visiteurs ayant achevé leur schéma vaccinal, et ce, il y a plus de 2 semaines.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Le gouverneur de la province de Gyeonggi, Lee Jae-myung, conforte sa position de favori au sein du Minju pour la présidentielle de 2022. À l'issue du premier vote auprès du corps électoral civil du parti au pouvoir qui s'est tenu dimanche dans la province de Gangwon, il a remporté 51,09% des voix. L'ancien premier ministre Lee Nak-yeon a dû se contenter de 31,45% en occupant la deuxième place. Quand on combine les résultats du vote du corps électoral et des quatre premières régionales durant deux week-ends, Lee Jae-myung atteint 51,4% et Lee Nak-yeon 31,08%. L'ex-ministre de la Justice Choo Mi-hye s'est classé au troisième rang avec un résultat à deux chiffres, suivi de l'ancien chef du gouvernement Jang Se-kyun et des députés Park Jong-yong-jin et Kim Doo-kwan. Jang Se-kyun a d'ailleurs déclaré cet après-midi qu'il allait se retirer. Les votes de la semaine dernière ont révélé la tendance d'un tiers du corps électoral de la formation présidentielle. La prochaine étape se tiendra dans les provinces de Jeolla, après les congés de Chuseok, la fête des récoltes qui tombe le 21 septembre. Lee Nak-yeon ambitionne de séduire davantage d'électeurs dans cette région qui abrite sa ville natale. Et voici un tout autre sujet. Séoul a fait part à l'ONU dans une lettre adressée mercredi dernier de la situation concernant les débats parlementaires sur l'amendement de la loi sur l'arbitrage des médias. La lettre transmise le 27 août par Irène Kahn, rapporteuse spéciale onusienne sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, a d'ailleurs été partagée à son gré avec l'Assemblée nationale de Corée du Sud. C'est ce qu'a affiché sur son site internet le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le gouvernement sud-coréen a également fait savoir que le vote de l'amendement prévu le 30 août avait été reporté d'un mois de sorte que des débats ouverts et approfondis puissent avoir lieu sur la question au sein d'un groupe consultatif constitué de députés du parti au pouvoir comme de l'opposition, mais aussi d'acteurs du milieu médiatique et d'experts. Dans sa réponse transmise à l'ONU, l'exécutif s'est engagé à protéger la liberté d'expression de ses concitoyens. Il s'agit de sa première réponse à l'appel de l'experte à la révision du texte qui pourrait sérieusement porter atteinte à la liberté de la presse. Il se peut qu'une deuxième missive soit envoyée en fonction de la décision parlementaire attendue le 27 septembre. Pour rappel, le projet de révision de la loi sur l'arbitrage des médias vise principalement à lutter contre les informations fausses et falsifiées. Le ministre de la Défense, So-Hook, a rencontré ce matin son homologue australien Peter Dutton en visite à Séoul pour discuter de la collaboration dans la défense et dans les industries concernées. Les deux hommes ont salué la poursuite de la coopération bilatérale malgré le Covid-19 et évalué positivement leurs efforts pour améliorer l'interopérabilité des armées à travers les exercices militaires conjoints. La marine sud-coréenne a récemment pris part à l'exercice naval Talisman Sabre organisé par Washington et Canberra. L'an prochain, l'armée de l'air du pays rejoindra Pitt Black, une manœuvre multilatérale dans la région de l'Indo-Pacifique supervisée par l'Australie. Les deux parties ont échangé leurs avis sur les enjeux actuels de l'industrie militaire et sont convenus de lancer de nouvelles discussions pour jeter les bases de systèmes tournés vers l'avenir. Quelques heures plus tard, Dutton et la ministre australienne des Affaires étrangères, Maryse Payne, ont été reçus par le président de la République. À cette occasion, Moon Jae-in a indiqué que la Corée du Sud et l'Australie devrait renforcer la communication stratégique dans différents domaines, dont la réponse à l'épidémie, l'environnement, ainsi que la réduction des armements. Selon l'hôte de la Maison Bleue, la visite de ces deux personnalités en Corée du Sud, l'année du 60e anniversaire des relations diplomatiques Séoul-Canberra, démontre la ferme intention de ce dernier de promouvoir le partenariat stratégique bilatéral, ce à quoi Séoul a fortement consenti. Moon a souhaité doper les échanges et la collaboration entre les deux alliés en expliquant que l'Australie constitue son plus grand partenaire commercial en Océanie, alors que son pays figure, lui, à la quatrième place dans les chiffres du commerce extérieur de Canberra. Payne, de son côté, a répondu que les deux nations représentaient des partenaires stratégiques importants l'une pour l'autre et d'ajouter que pour résoudre le dossier nucléaire de Pyongyang et installer la paix dans la péninsule coréenne, le dialogue et la coordination étroite constituaient le processus le plus essentiel et que Séoul et Canberra pourraient réaliser de grands exploits en travaillant main dans la main. Et un mot de culture pour terminer. Le groupe de K-pop Bangtan Boys a été triplement primé aux MTV Video Music Awards dans les catégories Group of the Year, Best K-pop et Song of Summer. Pour le prix du groupe de l'année, qu'il a remporté pour la troisième année consécutive, BTS était en concurrence avec Maroon 5, Silk Sonic ou encore ses compatriotes de Blackpink. Jusqu'à l'an dernier, cette récompense avait été décernée sous le nom de Best Group. En 2020, le Septuor, dirigé par RM, a remporté 4 trophées aux Video Music Awards et 2 en 2019, l'année où il a été nommé candidat pour la première fois dans cet événement musical de la chaîne américaine. C'est la fin de ce journal présenté aujourd'hui par Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée sur nos ondes.